Donc aujourd'hui, on termine les prédications sur Romains chapitre 8. C'est le troisième paragraphe. Et c'est vraiment un des plus beaux passages dans la Bible. Malheureusement, la lecture de ce passage est souvent teintée par des fausses doctrines qui ont été élaborées et transmises à travers les siècles jusqu'à nos jours. Donc, avant d'entamer le paragraphe, je me sens obligé quand même de clarifier et de mettre de côté ces fausses notions. Donc, ça va prendre quelques minutes, mais c'est quand même très important. À la base de ces mauvaises interprétations se trouve une mauvaise application du mot « prédestiné ». Donc, c'est dans Romains chapitre 8, versets 29 et 30 que nous allons lire tout à l'heure. Donc, ce mot, dans la Bible, n'a absolument rien à voir avec un système de déterminisme. La philosophie de déterminisme est une théorie partagée par les hindous, les bouddhistes, les musulmans et certains protestants. Moi, je focalise sur le sujet chrétien, n'est-ce pas? Selon la théorie chrétienne du déterminisme, le fait que Dieu connaît d'avance détermine la nécessité de l'acte. C'est-à-dire, dans ce système, le savoir est une puissance qui oblige. Il n'existerait pas de libre arbitre ou la liberté de choix. Dieu serait responsable pour le salut et aussi pour le péché. Selon cette théorie, Dieu déterminerait d'avance les individus qui seraient obligés de croire en Jésus-Christ. Le nombre de ces individus serait limité et personne ne pourrait résister à cette décision arrêtée de Dieu. Selon cette théorie, la valeur de la mort du Seigneur Jésus sur la croix serait limitée au nombre de péchés commis par ce nombre limité de personnes prédestinées ou présélectionnées à croire en Jésus-Christ. Ces individus seraient obligés de croire malgré leur opinion personnelle et personne d'autre ne pourrait jamais être sauvé. Les principes de cette théorie sont sur plusieurs points en nette contradiction avec les Écritures. Donc, je vais donner brièvement quelques vérités qu'enseigne la Bible, sans pour autant vraiment approfondir, d'accord? Donc, voilà, il y a une seule humanité, il n'y a pas d'autre. Actes chapitre 17, verset 28. Tous ont péché, Romains chapitre 3, verset 10. Tous sont destinés au enfer éternel, au feu éternel. Romains chapitre 3, verset 19. Christ est mort pour les péchés du monde entier et il est ressuscité. Donc je vais lire 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 14. L'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Donc dans cette phrase-là, Christ est mort pour tous les gens qui sont morts dans le péché. Par la grâce de Dieu, le salut est disponible à toute personne. Et je vais lire 1 Jean chapitre 2, verset 2. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Nos péchés, c'est-à-dire les péchés des chrétiens, les péchés des croyants, mais aussi, il dit, les péchés du monde entier. Donc toutes ces vérités bibliques nous montrent bien que, donc je vais donner encore d'autres listes des choses qui sont vraies. Dieu a créé l'homme avec la faculté d'agir en libre arbitre. Dieu appelle toute personne à se repentir et croire en Jésus-Christ. Cependant, le salut est efficace seulement pour ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Dieu ne transgresse jamais la responsabilité morale de l'individu. Donc Dieu ne transgresse pas le libre arbitre qu'il a donné à chaque personne. Puisque Dieu connaît toutes choses, il connaît d'avance tous ceux qui vont croire à l'Évangile, mais la décision de croire est la responsabilité seule de la personne. Cette préscience de Dieu, le fait que Dieu connaît d'avance, est donc passive et non pas active. Et c'est pour cela qu'en toute sincérité, Dieu appelle chaque personne à la repentance afin que tous les perdus soient sauvés. Mais à l'autre côté, Dieu y doit condamner chaque personne qui refuse de croire. En toute sincérité, il appelle tous, mais pour ceux qui refusent, il est obligé de les condamner. Dieu place la responsabilité de se convertir sur chaque personne. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Pourquoi on est condamné? Parce qu'on n'a pas cru en Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset 18. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 3, verset 35 et 36. Donc, on peut résumer un peu cette idée-là. Dieu connaît d'avance qui va répondre favorablement à son appel de croire en Jésus-Christ. Mais le fait de savoir d'avance n'a aucune valeur déterminante, n'a aucune puissance déterminante. Dieu n'a pas, donc, à bien comprendre, Dieu n'a pas prédéterminer qui va croire et le nombre de convertis n'est pas déterminé d'avance. Le nombre de personnes qui peuvent être sauvées n'est pas limité. Donc on peut demander, alors, c'est quoi la prédestination selon la Bible? Puisqu'on va voir le mot dans le texte. C'est quoi? Avant la création, Dieu a déterminé d'avance la récompense pour tous ceux qui allaient croire en Jésus-Christ. Par son autorité divine, Dieu a déterminé plusieurs réalités spirituelles. Par son autorité divine, Dieu a décrété, donc Dieu a dit, voilà, c'est comme ça. Il a décrété la disponibilité du salut. Que le salut soit disponible aux pécheurs. Il fallait que Dieu décide que ça soit comme ça. Par son autorité divine, Dieu a décrété, il a passé une loi, l'unique moyen du salut, c'est-à-dire le salut, c'est par la foi en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. C'est Dieu qui a déterminé ça avant qu'il a créé la planète. Puis par son autorité divine, Dieu a décrété, donc il a prédéterminé, que tous ceux qui acceptent le salut passeront l'éternité dans le paradis céleste conforme à la personne du Seigneur Jésus-Christ. La prédestination, c'est dans la Bible, concerne la sainteté et la gloire ultime et éternelle de tous ceux qui acceptent le moyen du salut, c'est-à-dire Jésus-Christ. Christ est mort pour chaque personne et pour toute personne. La mort de Christ sur la croix avait une valeur positive infiniment plus grande que tous les péchés du monde. Jésus n'est pas mort plusieurs fois pour expier individuellement nos milliards de péchés. Il est mort une fois pour toutes, et donc une fois pour tout le monde. Une seule mort pour tous les péchés. L'expiation en Christ par un seul sacrifice qui couvre à la fois le péché d'Adam ainsi que tous les autres péchés du monde. L'expiation est infinie. Personne ne peut la quantifier ni la limiter en valeur. Mes amis, Christ est mort pour tous vos péchés, tous nos péchés. Quelle grâce, pas simplement abondante, mais surabondante. Si vous y croyez, toutes les vérités que nous allons voir, que nous allons lire dans le chapitre qu'on observe aujourd'hui, la fin du chapitre 8, sont à vous. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Donc on va tourner dans Romains, chapitre 8, fin du chapitre, Romains chapitre 8. On a terminé la dernière fois avec le verset 28 et on commence aujourd'hui avec le verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Et jusqu'à la fin du chapitre. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste, ok, donc, ayant pris en considération qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et que la nouvelle essence, par la nouvelle essence, nous avons en nous l'Esprit de Dieu qui agit en nous par laquelle nous sommes soumis à la loi de vie en Jésus-Christ. Et sachant, comme on a lu dans le chapitre 7, que nous allons lutter contre nos tendances et désirs humains jusqu'à la fin de notre vie, nous savons, au-delà de toutes ces choses, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Que toutes choses concourent au bien, donc quand on dit le bien, là, ce n'est pas le bien temporaire, que voilà, je vais me sentir bien aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est le bien ultime, ok? De ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, donc c'est un nom, ce n'est pas un verbe, c'est un nom, les appelés, les invités, selon son dessein, selon l'objectif ou le but que Dieu a pour notre existence. L'objectif ou le dessein, c'est de restaurer pour l'éternité la sainteté des êtres humains perdus, afin de partager sa communion divine. Dieu nous appelle tous, mais tous ne répondent pas à son invitation. Quand on accepte l'invitation au salut, on devient un des bien-aimés de Dieu. Nous, les bien-aimés de Dieu, nous savons, nous avons confiance en notre Dieu, que tout contribue au plan de Dieu, quoi qu'il arrive. Et l'ultime objectif, c'est notre présence dans la gloire céleste, dans la communion avec Dieu pour l'éternité. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, donc Dieu connaît les choses bien avant qu'ils arrivent, bien même avant de créer la planète, Dieu savait tous les gens qui allaient croire en Jésus-Christ. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Alors, si on arrête cette phrase-là, ça donne toute cette philosophie de déterminisme, mais ce n'est pas le cas. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables, à être conformes, à être rendus similaires à l'image de son Fils. Donc, ce verset dit clairement que la prédestination biblique concerne l'état éternel des croyants. Okay? La prédestination concerne l'état éternel des croyants. Ce qui va arriver à tous ceux qui auront cru. Le fait que vous avez cru, voilà ce qui va vous arriver. Okay? Donc, ce verset ne suggère absolument pas que Dieu aurait présélectionné certains individus qui devraient croire. Non. Ce verset assure à nous qui croyons que tous nos péchés sont effacés et que nous jouirons du paradis céleste pour l'éternité. Ceux qui croient en Jésus-Christ sont certains de partager l'héritage céleste dans un état semblable au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est le même sujet que Paul a traité dans 1 Corinthiens chapitre 15, dans les versets 49 à 53, concernant la résurrection. Et là, il dit que nous serons changés. Nous serons transformés. Il dit, nous porterons l'image du céleste. C'est de quoi il parle ici quand il parle de la prédestination. C'est que nous serons adaptés conformes au Seigneur Jésus pour vivre au paradis. Et donc il continue, il dit, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères, toujours en parlant de la résurrection. Okay? Pour un temps, le Fils de Dieu était rendu semblable à nous, sauf qu'il n'a pas péché. Okay? Pendant 33 ans, le Fils de Dieu était sur la terre, parmi nous. Il était l'un de nous. Il est un de nos frères. Il est notre frère, je devrais dire, n'est-ce pas? Mais pour l'éternité, nous serons rendus semblables au Seigneur Jésus-Christ, façonné comme lui pour l'éternité. À lui soit la gloire. Amen. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Cet appel, et ici on a le verbe, avant c'était le nom, maintenant c'est le verbe, c'est le acte d'inviter, ok? Cet appel n'est pas limité en nombre. Dieu n'a pas invité 130 personnes au paradis, ok? C'est pas limité. Comme j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, Dieu nous invite tous, chacun par son nom. Il nous invite au ciel. L'invitation est pour tous et pour n'importe qui. Par contre, cette invitation est utile seulement pour la personne qui l'accepte et pour tous qui l'acceptent. Alors Jésus, dans Matthieu chapitre 22, Jésus a enseigné une parabole sur les Juifs qui ont résisté et refusé l'invitation du salut. La SNCF propose des voyages. l'invitation et pour ceux qui veulent partir à telle destination, n'importe qui. On ne peut pas dire, ben non, vous ne pouvez pas venir dans le train. C'est pour tout le monde qui veut prendre le voyage. Dans le TGV, les places sont numérotées. Quand vous payez votre billet, votre nom est inscrit sur le fauteuil. Si plus de monde veut partir, on ajoute des wagons. Ceux qui entrent en Jésus-Christ ont pris le voyage dont la destination est le paradis céleste. Les places sont illimitées. Tout le monde peut aller, si tout le monde veut aller, mais nous savons que tout le monde ne veut pas aller. Chaque personne qui accepte l'invitation, tous ceux qui acceptent l'invitation, le verset dit, sont justifiés, déclarés justes, pardonnés, rendus droits devant Dieu. C'était le sujet dans Romains chapitre 4 et 5. Il dit dans le verset, ces mêmes personnes sont glorifiées. Alors vous allez vous rappeler, dans Romains chapitre 3, par le péché, tous ont été privés de la gloire de Dieu. Maintenant, en Jésus-Christ, Dieu promet de restaurer la gloire aux croyants. Nous devons attendre l'accomplissement de cette promesse. C'est pas fait. Mais en attendant, Dieu nous a marqués de son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit habite en nous et c'est lui qui est comme une preuve ou un acompte ou une promesse. La gloire de Dieu habite en nous. Et c'est pour cela que Dieu dit que chacun de nous est un temple du Saint-Esprit. Cette vérité signifie que nous sommes déjà glorifiés par la présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit nous donne la certitude que Dieu l'a déjà fait. On est dans les lieux célestes aujourd'hui. Et c'est pour cela que Jésus prépare déjà d'avance notre demeure éternelle. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La réponse est que personne, ni rien que ce soit, ne peut s'opposer à notre salut, puisque le Tout-Puissant est notre bouclier, et notre délivrance, et notre garante. Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera-t-il à jouir de tout ce qui a un rapport avec le paradis céleste? Puisque Dieu a payé par la mort de son Fils afin de nous sauver, il n'y a aucune possibilité qu'il déshonore son Fils en laissant tomber ceux qui ont mis leur confiance en lui. Dieu va rester fidèle à ses promesses et à son plan, son dessein, son objectif éternel. Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Donc, qui accusera? Qui va incriminer ou qui va remettre en cause les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Certes, on nous accusera, mais sans succès. Dans l'Apocalypse, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse, le diable ne cesse jour et nuit de nous accuser. Mais cela n'a aucun effet. Pourquoi? Parce que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il a été tenté en tout point, mais il n'a pas péché. Cependant, il nous comprend. Il a connu notre humanité. Il nous représente parfaitement, tout en invoquant son sacrifice pour nos péchés. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Puisque les accusations sont rejetées, eh bien la condamnation n'existe pas. Christ est déjà mort pour tous nos péchés. Il est ressuscité, il se tient à la droite de Dieu et il nous représente. Il intercède pour plaider notre cause. Donc rappelez-vous le premier verset du chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors Éphésiens chapitre 1 parle beaucoup de cette petite phrase. En Christ, en Christ, en Christ, en lui, en Christ. Okay? Ceux qui sont en Christ, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Verset 35, la première partie. Qui, donc ça veut dire qui ou quoi, qui nous séparera, qui peut nous divorcer de l'amour de Christ? Donc la réponse, personne et rien ne peut séparer le croyant de son Sauveur. Et Paul nous donne quelques exemples, verset 35. Sera cela tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Verset 36, c'est donc qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Hélas, oui, des mauvaises choses pourraient nous arriver dans cette vie, c'est certain. Mais, verset 37, dans toutes ces choses, dans quoi qui peut nous arriver, ces mauvaises choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous remportons une victoire décisive, plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Selon Jean chapitre 16, verset 33, nous aurons des difficultés dans le monde, mais Jésus a vaincu le monde. Romains chapitre 12, verset 21 dit de ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais de surmonter le mal par le bien. Verset 38. Car j'ai l'assurance. Donc ce mot assurance veut dire je suis persuadé ou je suis convaincu par des preuves, ok? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, rappelez-vous le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et les versets 38 et 39 renforcent le verset 31. Personne, ni rien que ce soit, ne peut nous séparer, ne peut nous divorcer de l'amour de Dieu. Alors ça pose des questions. Quel amour? L'amour exprimé par l'évangile de son Fils. Donc je vais lire 1 Jean chapitre 4, versets 9 et 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Puisque Dieu est allé au-delà de toute limite, de toute mesure pour nous sauver. Il ne nous perdra jamais. Donc je vais terminer avec en passant en revue quelques vérités. Première chose, première vérité, vous pouvez compter sur Dieu. Vous pouvez compter sur Dieu. Dieu est fidèle. Par la suite, plusieurs fois dans les Écritures, Dieu exprime noir sur blanc sa volonté ou son désir que tous soient sauvés. Par l'Évangile, Dieu a mis tout en œuvre pour achever son objectif. Dieu attire, Dieu appelle tous. Alors, dans les prochains chapitres, Romains chapitre 9, 10 et 11, Dieu va parler du peuple d'Israël, mais le point derrière tout ça, c'est l'importance de la foi. Donc, on va voir ça les prochaines semaines. Le salut ne vient pas de l'homme. Le salut vient de Dieu. Les trois personnes de la Trinité sont actives et travaillent ensemble pour sauver le plus grand nombre de personnes possible. Il y a seulement une condition. Il faut croire. Il faut croire l'Évangile. Le Père éternel commande à tous de se repentir et de croire. C'est une obligation morale. Donc je vais lire Actes chapitre 17, verset 30 et 31. Enfin, je vais prendre une partie là. Dieu, je saute, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Ça, c'est le Père. Le Fils de Dieu a déclaré dans Jean chapitre 12, verset 32, « J'attirerai tous les hommes à moi. » Le Consolateur, le Saint-Esprit, est également actif dans l'évangélisation des non-croyants. Donc Jésus dit du Saint-Esprit dans Jean chapitre 16, versets 8 et 9, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Le Saint-Esprit est actif envers les non-croyants pour les persuader de la vérité de l'Évangile. En dépit de tous nos péchés, Dieu s'est engagé à sauver celui qui croit en Jésus-Christ. Alors, je ne vais pas le lire. Mais vous pouvez lire tout le passage dans Jean chapitre 3, versets 14, 15, 16, 17, 18, qui parle de quiconque croit. Je vais lire simplement le verset 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous pouvez lire les autres versets. Aussi, nous allons voir dans le chapitre 10, Romains chapitre 10, Paul va déclarer sans détour que quiconque croit sera sauvé. Donc, je vais reprendre Romains chapitre 8, versets 31 et 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Frères et sœurs, Dieu nous donne la victoire par Jésus-Christ dans la vie et pour l'éternité. Donc, je vais terminer en lisant Jude, verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible, ou dans certaines traductions, irréprochable. Et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps, et maintenant, et dans les siècles à venir, c'est-à-dire pour l'éternité. Amen. Okay. Donc, Dieu a tout pourvu et prévu dans notre salut et pour notre éternité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, à lui soit la gloire.